Une semaine d'actualité.
Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr.
Éric Bataillon.
Et cette semaine, notre invité est un universitaire, docteur HDR en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business, lauréat 2015 du Grand Prix de la Société de Géographie. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Vous publiez aux presses universitaires de France « Géopolitique de la nation France », un livre coécrit avec le géographe Yves Lacoste. Alors pourquoi précisément avoir choisi d'écrire ce livre avec celui qui est considéré comme le père de la géopolitique moderne et à ce titre souvent critiqué par ses pairs ?
Oui, et considéré comme par votre humble serviteur comme son maître. Donc je pensais il y a un an pratiquement jour pour jour proposer à Yves Lacoste un livre d'entretien où lui travaillerait, car lui est le maître, sur la nation de manière générale. C'est un concept dont il ne vous aura pas échappé qu'il est d'actualité, peut-être plus que jamais, notamment dans les questions internationales, mais aussi pour ce qui concerne la France. Et Yves Lacoste, dans sa grande charité intellectuelle, m'a dit non, nous allons écrire un bouquin, toi et moi, tous les deux, car nous avons exactement 40 ans de différence d'âge, nous avons des sensibilités, des origines différentes. Moi, je vais plutôt écrire effectivement sur la question de la nation et sur le post-colonial, très très important.
Nous en parlerons.
Voilà. Et toi, si ça t'intéresse, eh bien, tu écris, et c'est ce que j'ai fait, les questions liées à la République, aux différences aussi entre la nation et la République, mais également aux questions liées à l'islamisme radical. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un livre d'entretien.
Voilà, à parité.
À parité.
Alors, ce livre est dédié à deux personnes, en particulier Camille Lacoste, l'épouse disparue de Yves Lacoste, et Cabu, c'est votre choix. Pourquoi Cabu ?
Cabu était un copain, il a été assassiné par des barbares, alors qu'il critiquait pas seulement, mais aussi une religion, et en France, toutes les religions, eh bien, on peut les critiquer. C'est le béaba de la liberté, de la parole, de la presse, de la pensée, et c'est quelqu'un qui avait animé mon enfance, mais pas seulement moi, 2-3 générations de Français et d'étrangers, en francophones, entières. Et c'est la raison pour laquelle, oui, bien sûr, je voulais lui rendre hommage.
Alors dans quelques instants, nous parlerons de l'Égypte et de la Turquie, Frédéric Ancel. Avant cela, écoutez le témoignage d'un habitant d'Alep Est, joint mercredi au téléphone et traduit par Sami Boukhalifa. Il donne une idée de la situation particulièrement désastreuse des civils piégés par les combats dans la zone rebelle de la ville.
Les Russes ont négocié un cessez-le-feu et ont accepté l'évacuation des civils et des combattants armés. Mais cette opération d'évacuation rencontre des difficultés. Il y a eu un premier groupe, des civils et des blessés, qui ont tenté de quitter les quartiers insurgés. Mais des miliciens iraniens pro-régime sont en train de les en empêcher à cause de considérations confessionnelles. Et au moment où je vous parle, ces milices reprennent les combats. Ils tirent des obus contre les derniers quartiers encore assiégés. Nous avons des morts et des blessés. Ce sont des civils et ils sont encore une fois ciblés par des tirs.
Situation dramatique et confuse qui évolue d'heure en heure à suivre dans nos journaux d'information.
Sept jours dans le monde.
La communauté copte touchée par un attentat sanglant en Égypte, une bombe a explosé dans une église chrétienne du Caire en pleine messe dimanche, faisant des dizaines de morts et blessés. Ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui étaient visés. L'État islamique a formellement revendiqué cet attentat commis par un kamikaze identifié, Alexandre Bouchanti.
Le chef de l'État a fait ses révélations devant le pape copte Taodros II et les représentants des églises et des institutions islamiques, ainsi que les parents des victimes. Le président Sissi a précisé que le kamikaze portant une ceinture explosive se nommait Mahmoud Shafi Mohamed Mustafa et qu'il était âgé de 22 ans. Il a ajouté que des complices, dont une femme, avaient été arrêtés et que d'autres étaient encore recherchés. L'attentat contre l'église Botrosseïa dans l'enceinte de la cathédrale copte, qui avait fait plus de 20 morts et une cinquantaine de blessés, n'a pas été revendiqué. Il est intervenu au lendemain de la confirmation par la Cour de cassation de la condamnation à mort de Adel Habbara, un djihadiste condamné pour avoir dirigé une attaque contre l'armée dans le Sinaï, une attaque qui avait fait une trentaine de morts. Les djihadistes du Sinaï ont fait allégeance au groupe État islamique.
Autre attentat en Turquie, cette fois dans la partie européenne d'Istanbul. Une voiture piégée qui explose peu après la fin d'un match de football était visée des forces de police. Rapidement, le gouvernement islamo-conservateur a accusé les Kurdes d'être responsables. 200 sympathisants au moins ont été arrêtés et dans la nuit de lundi à mardi, ce sont les locaux du parti pro-kurde HDP qui ont été saccagés. Alexandre Billette.
Des cartons de papier à la renverse, des livres jetés au sol, des graffitis sur les murs. Le siège du HDP à Istanbul a été perquisitionné dans la nuit de lundi. La représentante régionale a été placée en garde à vue, mais les militants ont tenu malgré tout une conférence de presse dans les locaux en désordre du parti.
Tous les étages, toutes les pièces, toutes nos archives ont été détruites. Dans la nuit, 32 de nos camarades ont été placés en garde à vue. Ceci est un génocide politique. Les policiers ont écrit des graffitis sur les murs. Nous sommes venus, mais vous n'étiez pas là. Ils sont venus la nuit quand il n'y avait personne dans les bureaux. Mais comme vous pouvez le voir, nous sommes ici et nous resterons ici. Ils ont écrit « Nous reviendrons » sur un autre mur. Qu'ils reviennent.
Après l'arrestation de ses deux co-dirigeants en novembre, après les opérations antiterroristes de cette semaine, le parti de la démocratie des peuples pourrait bien ne pas survivre politiquement, ce qui laisserait se confronter face à face le pouvoir turc, toujours plus intransigeant, et les éléments les plus radicaux du PKK.
Et si l'on ajoute la situation particulièrement dramatique à Alep, en Syrie, nos journaux s'en font l'écho quasi en permanence. C'est donc dans un contexte particulièrement difficile que le nouveau secrétaire général des Nations Unies a pris ses fonctions au siège de l'organisation à New York. Le Portugais Antonio Guterres se présente en réformateur du fonctionnement de l'institution et parmi ses dossiers, le plus chaud sera sans doute celui de la Syrie. Marie Bourreau à New York.
Il y a 21 ans, Antonio Guterres prêtait déjà serment, mais c'était alors pour servir son pays, le Portugal, en tant que Premier ministre. À l'époque, un vent d'espoir soufflait en Europe avec la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, c'est la montée des populismes qui accompagne sa prise de fonction et l'ONU n'est plus taillée pour ce rôle, a-t-il convenu.
Il est grand temps pour les Nations Unies de reconnaître ses lacunes. Cette organisation est la pierre angulaire du multilatéralisme et a contribué à des décennies d'une paix relative. Mais elle n'est maintenant plus en mesure de relever les défis contemporains.
Pour cela, Antonio Guterres promet une réforme dans trois domaines clés des Nations Unies, le maintien de la paix, l'aide au développement durable et le respect des droits de l'homme. Sur la Syrie, qui sera son dossier le plus brûlant, il reste plus évasif.
Et je suis prêt à m'engager personnellement à travers mes bons offices dans la résolution des conflits, mais lorsque cela constitue une plus-value, tout en reconnaissant le rôle de premier plan des États membres.
Éloquent, intègre et compétent, les qualificatifs ne manquent pas pour célébrer l'arrivée du Portugais à la tête de l'ONU. Après 10 ans d'une présidence très terne du Sud-Coréen Ban Ki-moon, les Nations Unies espèrent qu'il saura lui redonner un rôle de premier plan dans la diplomatie mondiale.
Frédéric Ancel, le Moyen-Orient est encore et toujours à feu et à sang. Un mot de la situation d'Alep, les calculs politiques l'emporteraient sur l'humanité.
Toujours, les calculs politiques l'emporteront toujours. Je veux dire par là que la variable principale de prise de décision des grands de ce monde et de tous les mondes, depuis sans doute les premières cités sumériennes, hein, donc cette variable de prise de décision majoritaire, elle est toujours géopolitique, elle est toujours liée à des intérêts. Alors bien compris ou pas bien compris, mais ces intérêts pragmatiques, froids en quelque sorte, hein, je pas à vous que je vais rappeler que Hegel parlait des États qui n'ont que des intérêts, et Nietzsche disant que les États sont les plus froids des monstres froids, ça demeurera. Pourtant, me semble-t-il, en tant que citoyen, c'est que la variable de prise de décision morale, éthique, très très minoritaire, soit de plus en plus importante. Voilà. Ça sera toujours très relatif, mais au moins accroître l'importance des questions humaines, humanistes, humanitaires par rapport au pragmatisme froid. Voilà.
Mais finalement, est-ce que la question de la nation ne se pose pas dans cette région du monde? Qu'est-ce qu'un Égyptien? Qu'est-ce qu'être un Turc ou un Syrien aujourd'hui?
Si, c'est fondamental, vous avez raison. D'ailleurs, la nation, c'est avant tout une représentation, hein, pour reprendre un terme cher à mon maître Yves Lacoste, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est une idée collective. C'est l'idée d'un collectif, plus exactement. C'est une représentation, c'est une idée. Mais je la crois bonne, saine et importante dans un cadre évidemment démocratique, parce que l'infranational, c'est le clan, c'est la tribu, c'est le groupe religieux. avec les chefs autoritaires et en général mafieux qui vont avec, et à la fin des fins, la guerre civile. C'est la raison pour laquelle nous défendons la nation, encore une fois, en tant que concept généreux, intégrateur. Je vais vous prendre un seul exemple, et ne me prenez pas pour un chauvin, je suis simplement patriote. La nation française, de la fin du 19e à la fin du 20e, a accueilli et intégré des millions de personnes qui sont devenues des citoyens français égaux devant la loi, bon, et de toutes origines, et de toutes religions. Vous voyez, donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le Proche et le Moyen-Orient, dans une large mesure, on pourrait aussi parler de l'Asie centrale ou de certains coins d'Afrique, mais surtout le Proche et le Moyen-Orient pâtissent de l'absence de l'idée d'un État-nation. Alors, c'est moins vrai dans certains pays que dans d'autres, mais malheureusement, là où c'est le plus violent, et prenez donc le cas de la Syrie, eh bien, c'est d'abord le clanisme et le tribalisme communautaire et confessionnel qui malheureusement l'emporte.
Une semaine d'actualité.
La diplomatie par le commerce. Malgré un antagonisme évident entre l'Iran et les États-Unis, une certaine normalisation prend forme entre les deux pays à la faveur de la levée de certaines sanctions économiques à l'encontre de Téhéran. De fait, les Iraniens annoncent avoir passé une méga commande à l'avionneur Boeing afin de renouveler leur flotte vieillissante. Et c'est une première depuis plus de 30 ans. Siavosh Ghazi.
C'est un accord historique entre l'Iran et l'avionneur américain Boeing. C'est la première fois depuis l'instauration de la République islamique en 1979, il y a 37 ans, que Téhéran signe un tel accord avec les États-Unis, toujours dénoncé par les responsables iraniens comme leur ennemi. D'ailleurs, les deux pays n'ont toujours pas de relations diplomatiques. Surtout, cet accord intervient à 40 jours de l'entrée en fonction du nouveau président américain Donald Trump, qui a dénoncé pendant la campagne électorale l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Le contrat avec Boeing a également été conclu quelques jours après l'adoption de nouvelles sanctions par le Congrès américain contre Téhéran, qui a promis de réagir. Il s'agit donc d'un contexte politique tendu entre les deux pays. Le ministre iranien des Transports a également affirmé que l'accord avec Airbus pour l'achat d'une centaine d'avions sera prochainement finalisé. L'objectif de Téhéran est d'abord de moderniser sa flotte aérienne, mais il s'agit également de finaliser ses gros contrats avant l'entrée en fonction de l'équipe de Donald Trump pour éviter tout risque. En effet, le nouveau président américain a choisi dans son équipe des personnalités connues pour leur position hostile à l'égard de l'Iran.
L'Iran qui annonce également son intention de construire des navires à propulsion nucléaire, ce qui ne plaît guère aux États-Unis. Des États-Unis où la polémique sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin présidentiel de novembre ne faiblit pas. Les Russes sont plus que jamais accusés d'avoir piraté les serveurs des deux camps pendant la campagne. Et le patron du FBI est suspecté d'avoir joué un rôle dans cette affaire qui continue d'alimenter le débat politique américain. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Si la Russie a piraté les serveurs républicains et démocrates, pourquoi le site Wikileaks n'a-t-il diffusé que des informations embarrassantes pour Hillary Clinton, pour faire gagner Donald Trump ou pour faire perdre la candidate? La nuance est subtile, mais elle alimente la controverse. Des élus républicains s'allient aux démocrates pour dénoncer ce qu'ils considèrent être, quel que soit le mobile, l'ingérence inadmissible d'une puissance étrangère. Harry Reid, leader de la minorité démocrate au Sénat, va même plus loin.
Des gens dans l'équipe de Donald Trump étaient en contact avec les Russes. Le patron du FBI a délibérément ignoré ces informations publiques. Il avait décidé de peser sur l'élection et il l'a fait. Quant à Wikileaks, ils ont été achetés pour faire élire Trump.
Les démocrates ne remettent pas en cause l'élection de Donald Trump. Ils estiment toutefois que la défaite d'Hillary Clinton est la conséquence d'une alliance objective entre pirates russes et Wikileaks avec la bienveillance du patron du FBI. On ne sait pas combien de temps Donald Trump pourra nier ce qui est désormais une évidence d'après la CIA et le FBI, d'autant que les élus républicains sont de plus en plus nombreux à oser s'exprimer sur ce sujet qui, au-delà des élections, touche la sécurité nationale.
C'est dans ce contexte que le président élu, Donald Trump, a complété son équipe en nommant au poste de secrétaire d'État, autrement dit le ministre des Affaires étrangères, l'actuel patron de l'une des plus grandes entreprises mondiales, ExxonMobil. Rex Tillerson est un familier du président russe Vladimir Poutine, ce qui n'est pas sans poser des questions jusque dans le camp républicain. Frédéric Ancel, la Russie semble donc omniprésente en Europe, en Syrie, au Japon, où Vladimir Poutine achève une visite officielle, mais aussi dans le champ politique américain. Cela vous étonne ?
Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne rappelle pas que la Russie est forte de notre faiblesse. Vous savez, le PIB global de la Russie, c'est celui de l'Italie. Autrement dit, les deux tiers de celui de la France. Bien. La Russie est une grande puissance pauvre. Dans grande puissance pauvre, vous avez grande puissance. Et notamment, vous avez la détermination d'un Vladimir Poutine à peser dans tous les rapports de force qui existent aujourd'hui. Mais dans grande puissance pauvre, vous avez aussi pauvre. Autrement dit, il est relativement facile, il était facile pour les Américains et les Européens de bloquer, sur le plan à la fois informatique en l'occurrence, diplomatique, militaire, économique, les menées russes. Je constate que M. Obama, en 2013, a commis l'erreur absolument catastrophique, et je l'ai dit à l'époque à maintes reprises, ourbi et orbi, de ne pas aller respecter sa propre ligne rouge hein, face à un Bachar el-Assad qui venait d'utiliser des gaz neurotoxiques, ce qui a permis l'entrée en force des Russes, hein, je rappelle qu'il n'y a pas de chasseurs-bombardiers russes, en 2013 en Syrie, hein, tant s'en faut, et qui manifestement a permis, à une faiblesse donc, qui a permis aux Russes à la fois d'avancer aussi d'ailleurs en Ukraine, mais aussi sur le plan informatique intérieur américain. Parce que je n'imagine pas un seul instant que les États-Unis ne soient pas capables de se protéger à minima sur le plan informatique, ou alors c'est vraiment la fin de la puissance américaine.
Alors revenons sur votre livre « Géopolitique de la nation France » publié aux presses universitaires de France. Alors, il semble que la grille de lecture géopolitique d'Yves Lacoste l'ait conduit à penser, il y a plus de 10 ans déjà, que la société française était menacée de l'intérieur. Vous rappelez notamment dans votre livre un dialogue qu'il a eu avec le chef d'état-major des armées de l'époque.
Oui, absolument. Le général Bernard Thorette, absolument, un grand démocrate qui, à l'époque, avait invité, il y a effectivement 10 ans de cela, aux Invalides, la fine fleur de la géopolitique française, et dont Yves Lacoste était le témoin. Le grand témoin de cette soirée. Et le général Thorette avait brillamment présenté l'armée française, notamment sous ses dimensions sociales et humanitaires. Et Yves Lacoste avait rappelé que on avait oublié quelque chose. C'est la possibilité, peut-être, l'éventualité, malheureusement, qu'un jour, sur le sol national, en France même, on soit obligé de déployer l'armée. Voilà, c'est fait depuis 2 ans. Et là, et à l'époque, Bernard Thorette était évidemment, comme nous tous d'ailleurs, relativement stupéfait par cette éventualité présentée par Yves Lacoste. On y est.
Il y avait déjà des signes avant-coureurs de la possibilité que des citoyens français finalement se retournent contre leur propre pays.
Oui, il y avait des signes avant-coureurs parce que dans un certain nombre de quartiers, dans ce qu'on appelle pudiquement des banlieues difficiles, un certain nombre de jeunes gens ne se représentaient pas plus comme français. Alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun peut se penser comme il veut et dans n'importe quel pays démocratique. Sauf que là, il commençait déjà, ces jeunes gens, à pratiquer une filiation très forte avec des groupes qu'aujourd'hui on appelle djihadistes et qu'à l'époque on appelait simplement, entre guillemets, islamistes plus ou moins radicaux. Donc il y avait déjà les prodromes de ça, de ce problème-là, avant même que le terrorisme islamiste frappe de plein fouet.
Alors, vous êtes un pur produit de l'école publique, Maison Alfort notamment, mais aussi ensuite l'université Grenoble, Paris 8. Qu'est-ce qui a changé depuis l'époque où vous étiez élève, étudiant ?
Je vous dirais que dans les différentes institutions dans lesquelles j'ai le plaisir d'enseigner, et c'est plutôt une bonne nouvelle, il n'y a pas eu énormément de changements. Je veux dire par là que, d'une part, il y a très peu de propos à caractère complotiste, négationniste, à caractère islamiste, dans les institutions dans lesquelles je donne des cours, soit pour intervenir en tant que conférencier, soit en tant qu'enseignant. D'autre part, j'ai le plaisir d'enseigner depuis plusieurs années dans des institutions situées hors de France, notamment en Afrique, et je pense en particulier à Libreville, l'université Omar Bongo de Libreville, dans le département de géographie duquel je sévis depuis 3 ans. Et de façon générale, je crois pouvoir déceler une vraie augmentation du niveau de conscience. Je veux dire par là que la mondialisation est aussi celle de la volonté de se cultiver. Elle est aussi celle de la volonté de savoir et de connaître ce qui se passe ailleurs et de jouer un rôle important. C'était évidemment beaucoup moins le cas il y a 25-30 ans lorsque j'étais adolescent ou jeune étudiant.
Et il vous paraît quand même nécessaire aujourd'hui de vous déclarer patriote français ?
Ah, c'est extrêmement important. On peut tout à fait être patriote et lutter, comme je le fais, contre le nationalisme, c'est-à-dire le chauvinisme, c'est-à-dire l'exclusion, hein, je le rappelle, hein, la notion de patrie, notamment de patrie républicaine française, en particulier forte de sa laïcité, la notion de nation, hein, ce sont des idées intégratrices et généreuses et non pas excluantes.
On continuera à parler, à avoir cette discussion dans la seconde partie. Frédéric Ancel, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
L'atelier des médias.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business, pour son livre « Géopolitique de la nation France », coécrit avec le géographe Yves Lacoste et publié aux presses universitaires de France. Alors nous avons terminé la première partie en parlant, en abordant la question du nationalisme. Alors justement, est-ce qu'un certain nationalisme n'aurait pas chassé l'idée de la nation en France, notamment à la faveur de l'ouverture vers l'Europe ?
Si, vous avez raison, mais vous savez, au XXe siècle, les ismes ont fait beaucoup de mal à des idéaux qui étaient jusque-là extrêmement positifs. Et c'est vrai du nationalisme qui est un dévoiement de la nation. Et c'est vrai aussi que, malheureusement, la nation a glissé de la gauche française. Hein, la première fois qu'on parle de la nation, c'est à Valmy, hein, en 1792, et c'est un général révolutionnaire, et pas d'extrême droite. Hein, bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean Jaurès, 1910, hein, Jean Jaurès n'est pas d'extrême droite, vous me l'accorderez, il écrit un traité de stratégie militaire en préambule duquel il vante l'idée de nation. Bon. Mais autour des années 20, 30 et 40, la nation bascule non seulement à droite, mais à l'extrême droite. Et avec Yves Lacoste, nous avons souhaité la ramener en quelque sorte dans le giron républicain de l'ensemble des citoyens humanistes. Hein. Elle n'appartient à personne et notamment pas à un parti en particulier, la nation. Elle ne doit pas être confondue avec le nationalisme. Je précise que 3 de mes 4 grands-parents viennent d'Europe orientale, donc je ne suis que très, entre guillemets, peu français de souche, et que la nation des années 20 qui a accueilli mes grands-parents étaient une nation, la preuve et pour cause, extrêmement ouverte et généreuse.
Alors, dans votre ouvrage, Frédéric Ancel, vous écrivez que la nation française est menacée à la fois par une idéologie mortifère et par la complaisance intellectuelle. Alors, l'idéologie, on peut entendre que cela peut être l'islam radical, mais la complaisance intellectuelle, de quelle nature est-elle ?
Ce sont les idiots utiles, pour citer Lénine. Les idiots utiles, ce sont des gens qui sont extrêmement complaisants vis-à-vis de l'islamisme. Alors, soit pour des raisons idéologiques, puisque à l'extrême gauche, notamment dans les partis ou chez les personnes qui se qualifient de trotskistes, eh bien, on assume une sorte de mythe de substitution. C'est-à-dire que, puisque le prolétariat n'existe plus, en tout cas dans sa version romantique des années 50, 60, 70, ces fortes densités ouvrières ou minières, eh bien, on va le remplacer par une religion. On remplace en quelque sorte une classe par, sinon une race, en tout cas une religion. Bon. Et les musulmans, de façon générale, j'ai pas dit des, mais les musulmans, deviendraient les nouveaux prolétaires. Par conséquent, les nouveaux opprimés. Mais s'il y a des opprimés, il y a des oppresseurs. Et les oppresseurs, c'est toujours pareil. C'est la nation, c'est la république, c'est la bourgeoisie, c'est le capitalisme et toutes ces âneries. Bon. Eh bien, nous luttons contre cette idéologie qui n'a absolument aucun sens. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme de désarmement moral. Donc, soit chez des gens se percevant comme trotskistes, soit chez des intellectuels qui ont soutenu le régime génocidaire des Khmers rouges dans les années 70, ou des gens dûment financés, au hasard par le Qatar. Vous voyez, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et oui, malheureusement, donc il y a aussi des ennemis de l'intérieur qui ne sont bien sûr pas des jeunes musulmans, mais qui sont ces gens-là.
On y reviendra plus longuement, Frédéric Ancel, un petit peu plus tard. En attendant, arrêtons-nous sur l'actualité française avec la mise en accusation de l'ancien ministre de l'économie, Christine Lagarde, devant la Cour de justice de la République. Il s'agit de déterminer si, par sa négligence, l'ancienne ministre a permis un gigantesque détournement d'argent public au profit de l'homme d'affaires et lui-même ancien ministre, Bernard Tapie. « Je n'ai pas l'intention de me taire », a-t-elle répondu au premier jour de son procès, lundi, quand la présidente de la Cour lui a rappelé son droit au silence. Toutefois, le procureur n'a pas demandé de condamnation de l'actuelle patronne du Fonds monétaire international. Côté purement politique, le candidat de la droite à l'élection présidentielle met un peu d'eau dans son vin, violemment attaqué à la fois par la gauche et l'extrême droite sur son projet de réduire les remboursements de santé. François Fillon écarte désormais les notions de petits risques qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, ce qui inquiétait les personnes les plus fragiles et les moins fortunées. François Fillon, interrogé sur une chaîne d'information en continu.
À aucun moment, je n'ai voulu privatiser l'assurance maladie. Non, je ne veux pas distinguer entre les gros et les petits risques. Mais oui, je veux mieux articuler les rôles de l'assurance maladie et des complémentaires. Une clarification de leur rôle réciproque et de leur rôle additionnel, qui éviterait, comme cela se fait aujourd'hui, de décider au coup par coup le déremboursement d'un médicament.
François Fillon. Un nouveau schéma d'organisation de l'islam de France dessine, qui se veut beaucoup plus efficace. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, a rencontré une délégation de l'Union des organisations islamiques de France pour mettre cette instance sur les rails. Mais pour acquérir son indépendance, le culte musulman doit encore convaincre sa base, ce qui n'est pas gagné. Écoutez le reportage de Raphaël Rennes, diffusé sur notre antenne.
une envie de poursuivre.
Il se veut enthousiaste, Bruno Leroux, à l'issue de cette journée. Mais à vrai dire, il n'en est pas sorti grand-chose. La Fondation de l'Islam de France est sur les rails, mais son conseil d'administration ne s'est réuni qu'une seule fois. Le Conseil français du culte musulman souffre toujours d'importantes divisions quant à l'Association nationale cultuelle qui devrait être chargée du financement des projets religieux. Elle n'est encore qu'à l'état de projet. Pas d'annonce donc, mais le ministre assure que ce n'était pas l'objectif.
Ce n'était pas une instance de décision. Il y a eu 3 groupes de travail qui ont fait des propositions. Il y a un rapport qui a été rendu. Je veux maintenant travailler avec chacun des acteurs à toutes les dimensions de ces travaux pour montrer que l'instance de dialogue, ça sert à quelque chose.
À l'issue de la journée, Hakim Al-Karaoui se dit déçu. L'auteur d'un rapport intitulé « Un islam français est possible » regrette qu'il n'ait pas été question une seule fois de radicalisation.
Il faut effectivement former des imams, une organisation capable de lever de l'argent, etc. Mais ces imams-là ne parleront pas aux jeunes qui se radicalisent. Parce que les jeunes qui se radicalisent, ils cherchent du conflit. Ils sont contre les institutions. Donc l'institutionnalisation de l'islam de France ne réglera pas le problème de la radicalisation.
En ouvrant cette journée, Bernard Cazeneuve avait pourtant appelé les participants à assumer leur rôle. Il n'y a pas d'intégrisme modéré, avait lancé le Premier ministre.
La France n'en finit pas de tenter d'organiser la religion musulmane, Frédéric Ancel. Qu'est-ce qui cloche, selon vous ?
Alors, 2 choses. La première, c'est que les représentants du culte musulman en France ne s'entendent pas. Ils sont, d'ailleurs, c'était très bien dit dans votre reportage, ils sont déchirés par plusieurs clivages à la fois nationaux. Je pense au Maroc face à l'Algérie, je pense à l'intrusion de l'Arabie Saoudite très souvent, de la Turquie bien évidemment. Donc on a ce clivage national et on a aussi un clivage lié, ne l'oublions pas, aux rentrées d'argent, tout à fait licites, hein, liées à l'alimentation halal. Donc ça, au partage en quelque sorte hein, du gâteau. Et puis si on ajoute à cela des tendances extrêmement diverses sur le plan du culte, nous trouvons effectivement une espèce de patchwork, pardon de le dire de façon angliciste, qui est extrêmement compliqué. Un point également, là on a évoqué la radicalisation. Les salafistes, d'une part, les frères musulmans, d'autre part, sont de véritables sectes. Et je pense qu'il faudrait que la République les considère comme telles. D'ailleurs, l'immense majorité des musulmans, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde, et en particulier en Afrique, où j'ai souvent l'occasion d'aller, considèrent les salafistes et les frères musulmans comme des sectes, et des sectes relativement dangereuses. Et puis le dernier point, c'est un manque de détermination. La République doit absolument parvenir à faire comprendre aux représentants les plus radicaux ou les plus traditionnalistes, disons cela comme ça, du culte musulman, que force revient toujours à la loi et que la loi, elle est républicaine. Ça a été vrai avec le judaïsme et Napoléon Ier lors du consistoire en 1807-1808. Ça a été vrai, bien sûr, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Ça doit être vrai aujourd'hui avec le culte musulman.
Alors, vous expliquez que la France est aujourd'hui victime d'une agression tant extérieure qu'intérieure. Sommes-nous en guerre et sommes-nous en guerre civile ?
Alors, je vais vous répondre très franchement, je crois que l'ancien Premier ministre Manuel Valls avait parfaitement raison de dire, et d'ailleurs Bernard Cazeneuve, qui était à l'intérieur, qui maintenant est Premier ministre, de dire que nous sommes en guerre. Jean-Yves Le Drian d'ailleurs l'a dit aussi. Seulement, si on le dit, il faut l'assumer. Alors pourquoi on le dit ? Parce que on nous a déclaré la guerre. Daesh d'une part, Al-Qaïda, ne l'oublions pas, d'autre part, mais également Boko Haram en Afrique, ont déclaré la guerre à la France par écrit, à l'oral, et puis sur le terrain, le moins qu'on puisse dire est que voilà, ils nous la font de façon extrêmement cruelle. Par conséquent, il faut relever le défi. Il faut bien l'assumer, cet état de guerre. En même temps, il faut l'assumer en réactivant des articles de loi qui sont prévus par le code pénal français, de façon parfaitement démocratique, et qui prévoient des peines lourdes en cas de trahison. En temps de guerre, là, je pense évidemment à des terroristes, même s'ils sont français. Et enfin, je dirais que non, nous ne sommes pas en guerre civile, heureusement. Pourquoi nous ne sommes pas en guerre civile ? D'abord parce que le peuple français a réagi extrêmement bien après chaque attentat islamiste. Il n'y a pas eu de pogrom. Il n'y a pas eu, entre guillemets, pardon du terme ignoble, il n'y a pas eu de ratonnade. Imaginez que nous ayons été dans certains pays d'Europe orientale ou dans d'autres États dans le monde, ce ne serait malheureusement pas passé comme ça. Donc le peuple français a fait preuve d'une grande sagesse, d'une part. D'autre part, les autorités républicaines tiennent bon. C'est vrai sur le plan judiciaire, policier, militaire, sur le plan associatif aussi. Et puis nous ne sommes pas en guerre civile parce que l'immense majorité des Français de culture ou d'origine musulmane ne veulent pas du djihadisme. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler. D'ailleurs, le chiffre principal publié par l'Institut Montaigne dans son enquête il y a quelques mois de cela indiquait bien que la moitié exactement des personnes interrogées se revendiquant, acceptant de se revendiquer comme musulmanes, affirmaient que les lois de la République étaient évidemment supérieures aux lois de l'islam. Les deux autres cas étaient partagés sur des nuances. Mais nous avons là quelque chose de solide. Et pourquoi la France reste solide face à ces menaces de guerre civile, que souhaitent bien sûr les islamistes, c'est parce que on y revient, il y a une vraie identité nationale au sens généreux du terme. La notion de patrie, ça veut dire quelque chose en France. Et d'autre part, parce que la laïcité a permis à la France, depuis au moins la Révolution française, et en tout cas depuis 1905, d'éviter justement les clivages de type guerre civile.
Frédéric Ancel, sur un autre plan, vous écrivez que le sionisme est aujourd'hui un outil de rejet des Juifs et aussi de la nation française. Que voulez-vous dire par là?
Oui, ceux qui détestent la nation en général détestent non seulement ce mouvement de libération nationale du peuple juif, qui a été le sionisme et l'État d'Israël, mais je le dis aussi, qui détestent les États-Unis. Alors peut-être pas avec Trump, on verra bien, mais en tout cas les États-Unis, et de façon générale d'ailleurs, sur un autre plan, les droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Bah, c'est la théorie du fer à cheval, hein, du professeur Fay, hein, donc les extrêmes qui se rejoignent, c'est l'alliance rouge-brun, et nous avons là la détestation de deux projets nationaux. Donc la France, on l'a répété il y a quelques instants, et le peuple juif en tant que peuple. Et en général, ceux qui détestent la nation française ou la patrie n'aiment pas le fait que les juifs ne se perçoivent pas que comme une religion, mais également comme un peuple. Or aujourd'hui, force est de constater, ça plaît pas, que la majorité des juifs en Israël, c'est sûr, mais dans le monde sans doute aussi, se représentent avant tout comme un peuple, et seulement après, comme éventuellement un groupe religieux. Or, il faut relire la Charte des Nations Unies dans son chapitre 1er, article 1er, alinéa 2, tout peuple a le droit à l'autodétermination. Alors, ça n'engage absolument pas les questions de type territorial, le conflit israélo-palestinien. J'ai toujours été favorable, évidemment, à la création d'un État palestinien indépendant, tout à fait souverain, aux côtés d'Israël. C'est pas le problème. Le problème est de savoir si, oui ou non, on reconnaît aux Français le droit de constituer un peuple, une nation, vous voulez, et d'être géré, régie plutôt par la République, telle que c'est le cas aujourd'hui, et le tout est de savoir si en même temps on accepte pour les Juifs leur droit de se représenter comme un peuple et non pas seulement comme une religion.
Voilà. Un Juif qui malgré tout peut rester et être français.
Ça pour le coup, et qui sera d'abord français. C'est tout à l'heure j'ai cité Napoléon Bonaparte. Bonaparte, il avait demandé aux représentants du culte juif en 1807-1808, il leur avait fait un QCM en quelque sorte. Répondez s'il vous plaît messieurs à ces quelques questions. Et parmi les questions les plus importantes, Bonaparte avait demandé, écoutez bien, aux représentants du culte juif qui étaient leurs véritables frères. Il y avait deux possibilités, soit leurs coreligionnaires juifs, soit leurs compatriotes français. Que croyez-vous qu'ils répondirent? Ils répondirent évidemment que leurs frères, c'étaient les compatriotes français.
Semaine d'actualité.
En Afrique, le revirement du président gambien sortant passe mal. Yahya Jammeh avait pourtant concédé sa défaite lors de l'élection présidentielle avant de finalement d'en contester le résultat. Une situation qui inquiète les voisins de la Gambie. Une délégation de la CDAO, composée des présidents du Nigeria, de la Sierra Leone, du Ghana et du Liberia, s'est rendue à Banjul mardi pour tenter de convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir. Sans succès, le président sortant gagne du temps. Guillaume Thibault à Dakar.
Fantasque peut-être, fin négociateur c'est une évidence. Yahya Jammeh n'a rien lâché, au contraire, en jouant la carte de la Constitution, en déposant via son parti son recours devant la Cour suprême, alors qu'il discutait avec les quatre chefs d'État venus lui faire comprendre qu'il devait lâcher le pouvoir, il a su au contraire se protéger. Difficile, en effet, pour l'institution ouest-africaine qui prône à chaque conflit le respect de la Constitution de critiquer Yahya Jammeh. Les menaces d'une possible intervention militaire n'ont d'ailleurs eu aucun impact. De ce côté-là, l'ex-président a aussi retrouvé du soutien. Le chef d'état-major des armées, Ousmane Badji, un temps loyal à Adama Barrow, a indiqué hier « Jammeh me paie, c'est à lui que je réponds ». Si la chef d'état du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui dirigeait la mission, assure ne pas être déçue et certaine que la démarche va aboutir, son regard fermé à la sortie de la présidence gambienne peut être interprété différemment. Elle n'a visiblement rien obtenu de Jammeh et a d'ailleurs indiqué en fin de soirée qu'elle allait désormais en référer à ses pairs samedi lors du sommet des chefs d'état de la CDAO à Abuja. Après une longue journée de négociations, Yahya Jammeh a lui prouvé que ce ne sont pas quatre chefs d'État qui le pousseront à quitter le pouvoir.
Et samedi, c'est-à-dire aujourd'hui, tous les développements sur cette affaire à rebondissement dans nos journaux d'information. Au Gabon, les observateurs de l'Union européenne sont revenus lundi pour présenter leur rapport sur le déroulé du dernier scrutin présidentiel. Un rapport qui met en question la réélection d'Ali Bongo, mais ne va pas jusqu'à préconiser des sanctions, se contentant de formuler 11 recommandations. Côté réaction, l'opposition exulte, tandis que le pouvoir temporise. Yves-Laurent Goma à Libreville.
Le rapport contient 65 pages, mais quelques petites phrases sur les résultats du Haut-Togoué, fief d'Ali Bongo, ne passent pas inaperçues. Maria Gabriel, chef de la délégation.
Dans le Haut-Togoué, la mission a relevé un processus de consolidation particulièrement opaque et des anomalies au niveau des commissions électorales. Ces anomalies mettent en question l'intégrité du processus de consolidation des résultats et du résultat final de l'élection.
Maria Gabriel a insisté que son rapport n'est pas une décision. Mais Jean-Ping, qui revendique toujours sa victoire, exulte.
Le rapport qui nous a été présenté est un très bon rapport. Il démontre de manière incontestable que c'est moi, Jean-Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle.
Le ministre de l'Intérieur, Paco Mobele Boubeya, premier à recevoir la copie du rapport, a préféré s'apesantir sur les recommandations.
C'est un rapport qui vient aussi à point nommé au moment où le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient de convoquer un dialogue politique. Ce sont les éléments à examiner par la classe politique si elle le souhaite.
La publication du rapport, pourtant très attendue, n'a provoqué ni déception, ni scène de joie dans les rues de la capitale.
Mais il ne fait pas bon entraver les processus électoraux, ni encourager les violences lors de ces derniers. L'Europe et les États-Unis ont décidé de façon coordonnée de sanctionner 9 responsables de la République démocratique du Congo pour de tels faits. Les Européens visent 7 personnes, tandis que le fisc américain en cible 2 autres. Léa Lisa Westerhoff.
Pour les Européens, l'objectif principal, c'était sanctionner les responsables de la répression des manifestations du 19 septembre dernier. Toutes les personnes visées, sauf une, faisaient partie d'une cellule de gestion de cette journée de mobilisation. Le commandant de la garde républicaine, Ilunga Kampete, par exemple, mais aussi le chef du renseignement militaire, Delphin Kaimbi, ou encore celui qu'on surnomme Tango Fort, le commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise. Tous de hauts responsables impliqués dans la répression violente du 19 septembre, selon les ministres des Affaires étrangères européens, 50 personnes au moins avaient été tuées ce jour-là. Les sanctions américaines, elles sont plus politiques et visent deux très proches de Joseph Kabila. Évariste Boshab, considéré comme l'un des principaux acteurs d'un maintien au pouvoir du président sortant, et Kalev Moutonde, le chef de l'Agence nationale de renseignement, accusé d'avoir muselé l'opposition et ordonné des arrestations extrajudiciaires, dont de possibles cas de torture. Les Américains attendaient cette vague de sanctions européennes pour en lancer une à leur tour et ainsi accroître la pression internationale. Objectif affiché, envoyer un signal fort pour empêcher toute nouvelle flambée de violence autour de la date cruciale du 19 décembre, augmenter aussi la pression pour qu'une solution politique soit trouvée jusqu'à l'élection du prochain président.
Frédéric Ancel, quitter le pouvoir, c'est toujours très difficile, surtout en Afrique.
Oui, toujours aussi difficile parce qu'on aime le pouvoir, enfin les gens de pouvoir aiment le pouvoir et ils n'aiment pas le quitter, effectivement, pas seulement en Afrique. D'ailleurs, je note qu'il y a plusieurs chefs d'État africains ces dernières années, et ça avait commencé d'ailleurs avec le démocrate Abdou Diouf au Sénégal, qui accepte de plus en plus souvent de respecter la règle démocratique et le résultat des scrutins, de plus en plus d'ailleurs sincères et transparents. C'est quelque chose qu'il faut absolument saluer. Et moi qui étais très récemment encore à Dakar dans la délégation officielle de Jean-Yves Le Drian, notre ministre de la Défense, dans le cadre du Forum Paix et Sécurité en Afrique, eh bien j'ai pu et on a pu constater à quel point il y avait ce souci démocratique et en même temps le souci de conserver ou de renforcer d'excellents rapports avec la France, puisqu'aujourd'hui il y a une véritable alliance entre la plupart des États africains d'une part, la France d'autre part, tous unis contre l'islamisme radical.
Sept jours en Afrique.
Un nouveau code pénal adopté par le Parlement au Tchad pour remplacer l'ancien qui datait de 1967. Parmi les innovations, l'abolition de la peine de mort, sauf pour les terroristes, ou encore l'interdiction du mariage pour les jeunes filles mineures. En revanche, en matière d'homosexualité, les peines encourues sont réduites, mais cela reste un délit. Mathias Radnako.
Fin 2014, en adoptant le projet de code pénal, le gouvernement a introduit une condamnation à des années de prison contre les personnes coupables d'homosexualité. Les milieux diplomatiques occidentaux s'indignent bruyamment et obligent le gouvernement à faire marche arrière, mais sans renoncer à condamner la pratique. Amit Mamad Dalob, ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Dans la dernière version du code qui est adopté par notre Parlement, l'homosexualité est légèrement pénalisée. la peine est allégée, c'est une peine pécuniaire, c'est un sursis par exemple.
Donc on n'ira plus en prison pour homosexualité, mais on risquera d'être frappé d'amende.
Oui, on peut l'interpréter aussi comme ça.
Il a fallu un lobby intense et des pressions politiques pour que les parlementaires acceptent de voter ce nouveau code. Ce qui n'a pas empêché certains de dire ce qu'ils pensent. Kassiré Koumakoué.
L'homosexualité est condamnée par toutes les religions. On n'a pas à pardonner quelque chose que Dieu même rejette. Parce que les Occidentaux ont dit ceci, cela. J'ai l'impression qu'en Afrique, particulièrement au Tchad, nous vivons par rapport aux idées des autres. Nous n'avons pas nos propres idées.
Pour le gouvernement, la disposition actuelle du code est un dosage entre une opinion publique conservatrice et une communauté internationale intraitable sur la protection des minorités.
En Algérie, alors que l'affaire des migrants subsahariens continue de faire des vagues, un journaliste est mort en prison des suites d'une longue grève de la faim. Mohamed Tamalt avait 42 ans. Il avait entamé sa grève de la faim en juin pour contester son arrestation, mais avait été condamné en juillet à 2 ans de prison. Il était dans le coma depuis fin août. Karine Franck.
Sur sa page Facebook, il disait ce qu'il pensait et faisait des commentaires à caractère provocateur, allant jusqu'à insulter le président algérien via des vidéos et des poèmes. Mohamed Tamalt avait été condamné le 11 juillet à 2 ans de prison ferme. Le jugement avait été confirmé en appel le 9 août, mais sa grève de la faim, il l'avait commencé le 27 juin, jour de son arrestation. Fin août, il tombe dans le coma. Il vient de décéder à l'hôpital des suites d'une infection pulmonaire, à en croire l'administration pénitentiaire algérienne. Cette nouvelle est un véritable coup de massue pour tous ceux qui défendent la liberté d'informer en Algérie, déclare Yasmine Katcha, directrice du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières. Comment expliquer qu'on ait laissé son état de santé se détériorer sans rien faire et pourquoi, s'interroge RSF, une telle condamnation pour des propos exprimés sur Facebook qui ne mettaient concrètement personne en danger? Ses avocats et les défenseurs des droits de l'homme demandent aujourd'hui aux autorités algériennes d'ouvrir une enquête indépendante sur les circonstances de la mort du journaliste.
Dans votre livre, Frédéric Ancel, Géopolitique de la Nation France, publié aux presses universitaires de France et co-écrit avec le géographe Yves Lacoste, ce dernier insiste justement sur la question post-coloniale et notamment l'Algérie dont on vient de parler. C'est une question que la République française n'a pas pu, n'a pas su ou n'a pas voulu régler ?
Oui, c'est les trois. C'est les trois et c'est embêtant. Parce que comme le dit très bien Yves Lacoste, on traîne un boulet moral et il faudrait qu'on mette tout sur la table. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, je préconise des assises nationales du récit français. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, un peu partout en France, dans le tissu associatif, dans toutes les mairies, dans toutes les préfectures, pendant un mois, 2 mois, que sais-je encore, eh bien on débattrait. Et les historiens, finalement, nous présenteraient un récit national peut-être un peu plus crédible que la manière dont il est traité jusqu'à présent, mais en même temps, on en aurait fini avec cette culpabilisation permanente, ce victimisme dont parle très bien le philosophe Pascal Bruckner depuis déjà des années, cette tyrannie de la pénitence. Donc je pense qu'il faut être effectivement très clair avec le post-colonial. Oui.
L'islamisme est l'ennemi, dites-vous. Alors est-ce parce que celui-ci hait les frontières ?
Alors parce qu'il déteste les frontières, parce qu'il est fanatique, parce qu'il est mafieux, on l'oublie trop souvent, parce qu'il est phallocrate, parce qu'il est raciste, parce qu'il est antisémite et parce qu'il est parfois génocidaire. Je pense à l'État islamique et par conséquent, je pense que Abdelwahab Medeb, qui était que feu malheureusement Medeb, qui est mort il y a 2 ans mais et qui nous manque beaucoup, qui était producteur sur France Culture, avait écrit un bouquin remarquable qui s'appelait La maladie de l'islam. Et la maladie de l'islam, c'est simplement le fanatisme. Et le fanatisme touche toutes les religions et toutes les idéologies à un moment M ou sur un territoire T dans l'histoire. En ce moment, c'est notamment l'islam. Et je suis de ceux qui disent, et je le dis d'ailleurs dans cet ouvrage, que les Français de culture, d'origine ou de sensibilité musulmane ont toute leur place au sein de la nation et sous la protection de la République. Les islamistes n'en ont aucune.
Les islamistes sont contre la nation ?
Absolument. Et le projet politique des islamistes est de casser les nations. C'est vrai d'ailleurs aussi dans le monde arabe et dans le monde africain, hein, mais c'est encore plus vrai en France.
Alors, vous critiquez la victimisation des islamistes qui accusent l'interventionnisme occidental. Pourtant, les Américains sont quand même allés en Irak, par exemple.
Ah, les Américains, oui, mais les Français, non. Ah, et pourtant, les Français sont particulièrement touchés depuis quelques années. Autre exemple, les Français ont colonisé des sociétés musulmanes. Certes, ce n'est pas le cas des Belges. Ah ben, la Belgique est quand même très touchée aussi, hein. Vous voyez, l'Espagne non plus, l'Espagne a été touchée pourtant. Vous voyez, donc, on est sur une imposture consistant pour certains qu'on a cités tout à l'heure, ou dont on a cité les courants de pensée, à considérer que décidément, tous les problèmes viendraient de nous autres Français ou Européens ou Occidentaux. Or, lorsque vous écoutez et lorsque vous lisez les islamistes, quelle que soit leur chapelle ou leur tendance, vous constatez qu'ils nous haïssent depuis le Moyen-Âge comme des impies, comme des koufars, des renégats, des gens qui ne respectaient pas les papes de l'époque, des gens qui ont fait, pour les Français, la Révolution, puis la loi de séparation en 1905. Ils considèrent que nous sommes pourris de l'intérieur par les francs-maçons, par les juifs, par les femmes, etc. Et donc, c'est bien parce qu'ils nous haïssent que nous devons combattre, et ils nous haïssent pour ce que nous sommes et non pas pour ce que nous faisons.
Est-ce que malgré tout, Frère Cancel, vous êtes confiant pour l'avenir? Parce qu'à vous écouter, on s'inquiète.
Je suis extrêmement confiant si nous nous battons. Nous, c'est-à-dire tous les démocrates, tous les humanistes, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, libres penseurs, et en France en particulier. Il faut se battre contre ce nouveau fascisme qui s'appelle l'islamisme radical. Et je le dis parce que c'est important, l'islamisme radical est une peste qui frappe une quantité extraordinairement importante de musulmans eux-mêmes. Et les musulmans détestent, dans leur immense majorité, dans le monde entier, les islamistes radicaux. C'est la raison pour laquelle l'alliance internationale, qui existe d'ailleurs dans une certaine mesure contre l'État islamique, et à laquelle j'appelle, c'est l'alliance des humanistes contre les islamistes radicaux.
Merci Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Je renvoie à votre livre, Géopolitique de la Nation France, publié aux Presses universitaires de France et écrit à quatre mains, ou plutôt à deux voix, avec le géographe Yves Lacoste. La semaine prochaine, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldy qui commentera l'actualité de l'année 2016 avec son invité Yann Mince, journaliste à Alternatives économiques. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Arvensky. Retrouvez l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou encore à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.